Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 Avenue de Thouars, 33 400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Sanctifie-les par la vérité Seigneur, car ta parole est la vérité. Je te prie encore Seigneur ce matin de disposer notre cœur au-delà de la chaleur qui fait, au-delà du temps qui passe. Nous voulons garder notre focus sur ta parole. Et nous ne voulons pas nous laisser disperser par quoi que ce soit. Nous voulons Seigneur nous laisser guider par ta parole et faire ta volonté. Alors encore, enseigne-nous, donne-nous, Seigneur, un message pour la semaine, afin de nous fortifier dans notre foi et de nous rendre capables de faire encore des miracles avec toi, comme ce qu'on a entendu par le témoignage de notre frère ce matin. Et comme, Seigneur, oh Dieu, beaucoup encore parmi nous vivent dans leur vie, mais n'ont pas l'occasion peut-être encore aujourd'hui de témoigner. Que ta parole vraiment soit au centre de notre vie et au centre de cette église et de ce ministère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Dis à ton frère, tu es au bon endroit. Dis à ton frère, si tu es fatigué, vraiment, tu vas passer à côté de ce qui va être dit ce matin. Merci au chantre. Dis à ton frère, dispose ton cœur. Ne regarde pas ta montre. Dispose ton cœur. Depuis le début de cet été, nous parlons de comment opérer dans la sphère divine. Et nous voyons les lois spirituelles, les lois divines, qui nous permettent d'opérer dans la sphère divine. Nous avons vu plusieurs lois déjà. Et actuellement, nous parlons de la loi de la foi. Et on a vu, selon Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, que la foi a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la perception. Le deuxième niveau, on l'a vu, c'est l'affermissement par la connaissance. Et le troisième niveau, c'est l'espérance. Et aujourd'hui, nous allons parler du quatrième niveau de la foi, l'assurance. Et dimanche prochain, nous finirons notre série d'enseignements avec le cinquième niveau, la démonstration. C'est un enseignement que j'ai repris, que j'avais donné ici en un seul culte, mais que Dieu a mis dans mon cœur de développer vraiment en détail et profondément. Et Dieu fait la grâce d'apporter d'autres révélations. Et aujourd'hui, nous parlons du quatrième niveau de la loi de la foi, l'assurance. Donc, pour ceux qui prennent des notes, vous devez noter que l'assurance est un état de cœur rempli de convictions qui nous porte à croire, sans l'ombre d'aucun doute, que ce que Dieu nous a dit va s'accomplir ou est déjà accompli. C'est une certitude intérieure. Sans l'ombre d'aucun doute, je sais déjà que la chose est accomplie, même si je ne vois pas encore la chose arriver. Je sais que la guérison est accomplie, même si je ne vois pas encore la guérison avec mes yeux physiques, se manifester dans mon corps ou dans le corps de la personne pour qui je prie. Mais l'assurance m'amène déjà à croire et à être certain, sans l'ombre d'aucun doute, que la chose est déjà acquise. Alléluia. Et pour parler de l'assurance, nous allons étudier l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque. Et cette histoire va nous enseigner cette clé, cet fondement important que nous devons intégrer dans notre vie. Cet fondement incontournable d'une assurance solide et divine qui n'est pas comparée à l'assurance que le monde donne, qui n'est pas comparée à l'assurance des hommes, mais une assurance sans faille. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 18. Je demande vraiment une concentration de votre part. Alléluia. Pour cet enseignement. Et je prie Dieu que tout esprit de confusion, de dispersion, soit chassé de ce lieu dans le nom de Jésus et que nos pensées soient concentrées sur la parole de Dieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ maintenant, au nom de Jésus. Et je refuse que les démons perturbent ces lieux, que les démons perturbent l'atmosphère. Je refuse que les démons fassent pleurer les enfants. Je refuse que l'atmosphère soit bruyante. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Et je prie que l'atmosphère soit remplie de la présence de Dieu maintenant pour l'écoute de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Dites, passez à l'autre bord. Donc le but de Jésus, c'était d'aller de l'autre bord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à ses disciples de prendre une barque. Donc, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une aussi grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ? » disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortirent des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Alléluia! Donc, ici, Jésus, après avoir parcouru de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades, il décide de changer de cap. Et il décide d'aller à l'autre bord. Et la Bible déclare que dans la barque, il y a eu une grande tempête. Une forte tempête. Mais pendant la tempête et au milieu de la tempête, au milieu du trouble, la Bible nous dit que Jésus dormait. Le premier fondement que j'aimerais ressortir de cette histoire, le premier fondement d'une vie remplie d'assurance, c'est qu'une personne qui a de l'assurance agit dans le calme et dans le repos, dans la tranquillité. Pourquoi? Eh bien, parce que l'assurance de Dieu, pas l'assurance du monde, mais l'assurance de Dieu s'acquiert dans le calme et la tranquillité. C'est pourquoi je vous invite à prendre avec moi Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Donc Jésus a compris qu'au milieu de la tempête, au milieu des difficultés, la chose que Dieu attend de lui, c'est qu'il soit dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos. C'est qu'il manifeste sa foi par une attitude d'assurance. Une assurance qui ne repose pas sur des choses que les hommes ont mis en place comme technique humaine, ou encore comme technique managériale, technique des méthodes de concentration ou de méditation mentale pour essayer d'obtenir une certaine sérénité ou encore une certaine zénitude. Son assurance ne reposait pas sur les philosophies des hommes, ni encore sur ces concepts ou encore ces doctrines que certaines sectes ou certaines philosophies enseignent aujourd'hui, ces courants philosophiques qui sont enseignés aujourd'hui dans notre société, tels que par exemple la zénitude, et qu'on entend partout parler être zen, être zen, être zen. Jésus n'a pas reposé sa foi sur une telle assurance. Jésus a compris une chose, que sa foi, son assurance, ne doit pas reposer sur des choses des hommes, ne doit pas reposer sur des philosophies humaines, ou encore des choses que les hommes ont inventées comme techniques. Non, mais son assurance doit reposer sur ce que dit la parole de Dieu, dans le calme et la confiance, dans le repos de Dieu, dans sa présence. Alors la Bible déclare que Jésus, dans la barque, pendant que la tempête soufflait, dormait. Donc l'assurance s'acquiert, non pas de méthode humaine. L'assurance de Dieu, je veux dire, l'assurance de la foi dont parle Hébreux chapitre 11, ne s'acquiert pas par des méthodes humaines, par des philosophies, des courants philosophiques de ce monde, ou par des techniques de méditation, de concentration mentale, etc. Mais s'acquiert par le calme et la confiance que procure Dieu dans sa présence et dans sa parole. Alléluia. Deuxième fondement important. L'assurance nous confère l'autorité. Voyez-vous, dans la tempête, au milieu du trouble, quand les disciples viennent réveiller Jésus, Jésus n'a pas paniqué. Il était très serein. Et quand il s'élève, il parle à la tempête. La Bible déclare qu'il menaça la tempête. Pour dire que quelqu'un qui a l'assurance, qui a la foi que Dieu donne, qui a l'assurance de la foi que Dieu donne, ne panique pas au milieu du trouble, ne s'agite pas, mais il parle aux circonstances, et au moment où il parle aux circonstances, il sait dans son cœur. Il n'espère pas, mais il sait dans son cœur. Il a dépassé le troisième niveau, il rentre dans le quatrième niveau de la foi, il sait dans son cœur que même les éléments de la nature lui obéiront. Alors il parle aux circonstances. Il a de l'autorité. L'assurance de la foi nous confère l'autorité divine. Quand je manque d'assurance, je n'ai pas d'autorité. Je perds même la crédibilité devant les gens qui m'entourent, devant mon environnement. Je perds la crédibilité. Imaginez-vous un chef d'entreprise. On lui présente un bilan. La secrétaire ou la comptable arrive, lui présente un bilan. Et il commence à paniquer devant le bilan. Il commence à... Mais comment on va faire? L'entreprise va fermer. Comment je vais faire pour régler telle dette? Comment je vais faire pour honorer à tel engagement? Comment je vais faire pour honorer à tel chantier? Il commence à paniquer. Il n'est pas serein. Vous êtes d'accord avec moi que même ses employés auront du mal à le suivre? Pourquoi? Parce qu'un leader doit inspirer la confiance. Alléluia! Un leader doit revêtir un caractère de sérénité, de calme, d'assurance, de confiance. On doit voir en lui l'incarnation de l'assurance. Alors Jésus savait que c'était un leader. Et que les disciples, ses disciples avaient les regards fixés sur lui. Et il voulait leur montrer qu'ils pouvaient avoir confiance en lui, en tant que leader. Alors il se lève, et comme tout leader, il fait preuve de calme, il fait preuve d'assurance, il fait preuve de sérénité, mais encore mieux, bien mieux, il fait preuve d'autorité. Parce qu'un leader incarne l'autorité. Alléluia.
Donc il parle aux circonstances. Et les circonstances lui obéissent. Les éléments de la nature lui obéissent. Et cela a permis aux disciples d'augmenter leur foi en la personne de Jésus. Cela a permis aux disciples de croire davantage en la personne de Jésus et de croire que réellement c'est lui, le Christ, l'envoyé de Dieu. Alléluia! Bien-aimés, si vous voulez que les gens croient en vous, si vous voulez que votre mari ait confiance en vous, si vous voulez que votre femme ait confiance en vous, vous devez faire preuve d'assurance. Il y a des gens aujourd'hui dans leur couple, dans le foyer, la moindre facture ou la moindre lettre de l'huissier commence à le faire paniquer. Mais si tu commences à paniquer devant les enfants et la femme, mon frère, si tu perds confiance, tu perds assurance, eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ont besoin de voir en toi un homme d'assurance, un homme de conviction, un homme de confiance. Alléluia. Et dans beaucoup de maisons, parfois ce sont les femmes qui font même plus preuve d'assurance que les hommes. Malheureusement. Mais les hommes doivent comprendre que leur position de leader dans la maison leur confère une responsabilité énorme. C'est celle d'inspirer la confiance et l'assurance à ceux qui les entourent. Et pour cela, ils doivent faire preuve d'autorité. Et ils doivent montrer qu'ils ont confiance en Dieu. Et Jésus a montré. Il a parlé aux circonstances, il a parlé aux éléments de la nature. Une personne qui a l'assurance parle aux circonstances et même les éléments de la nature l'obéissent. Alléluia. Troisième fondement, l'assurance nous donne la révélation de notre identité. Quand quelqu'un est rempli d'assurance, il sait qui il est. Il est conscient de son identité. Il sait qui il est. Et il ne laisse personne lui dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Pourquoi je dis il ne laisse personne lui dire ce qu'il est? Parce que parfois le diable peut venir nous dire ce que nous sommes. Le diable ne nous dit pas seulement ce que nous ne sommes pas. Voyez-vous, lorsque Jésus s'approche d'un démoniaque, et à plusieurs reprises ça s'est produit, ce phénomène, quand il s'approche d'un démoniaque, les démons qui sont à l'intérieur se manifestent et ils commencent à dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Mais ce qu'il disait était vrai, n'est-ce pas? Mais la réaction de Jésus était surprenante parce qu'à l'instant, Jésus le faisait taire, il disait, tais-toi et sors. Pourquoi? Parce que Jésus ne laissait même pas à l'ennemi lui dire ce qu'il était. Alléluia! Une seule personne avait le droit de parler sur la vie de Jésus, c'était son père. Et à chaque fois que Jésus laissait quelqu'un parler sur sa vie, c'était le père qui parlait. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église veulent entendre les gens leur dire ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'il leur manque d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance dans leur foi. Mais quand tu n'as pas d'assurance dans ta foi, tu n'es pas encore arrivé au quatrième niveau de la foi. Et c'est dangereux parce que ta foi connaît des carences, ta foi va avoir des lacunes. Tu peux avoir l'espérance, mais si tu n'as pas d'assurance, ta foi va avoir des lacunes graves. Parce que l'assurance, c'est le quatrième niveau. Et beaucoup de personnes dans l'église ont besoin et recherchent à ce que les gens leur disent ce qu'ils sont. Ah frère, vraiment, tu es un homme de Dieu. Tu es ouin. Tu sais, quand tu parles, je sens en toi l'onction de Dieu. Et il a dit, ah. Donc même lui-même, il s'en est rendu compte. Il a besoin d'entendre qu'on dise de lui des bonnes choses, qu'on lui fasse des éloges. Et quand on ne lui dit pas ce qu'il est ou ce qu'il fait, ou qu'on ne lui dise pas des choses qu'il veut entendre, alors la personne est frustrée. Mais celui qui a l'assurance n'est pas frustré. Alléluia! Celui qui a l'assurance ne cherche pas les éloges des hommes. Parce qu'il sait qui il est conscient de son identité. Alléluia! Celui qui a l'assurance, bien-aimé, lorsqu'on lui dit quelque chose qui est vrai, il ne regarde pas ce que l'homme dit. Il regarde à ce que Dieu lui dit. Il considère plus ce que Dieu lui dit que ce que les hommes disent, même si ce que les hommes disent est vrai. Je me souviens toujours d'un témoignage, d'une histoire, d'un jeune qui apprenait à jouer au piano. Et alors on l'a formé, c'était un maître qui l'avait formé, quelqu'un qui était très doué à l'instrument. Et il arrive qu'en fait cet homme va maintenant programmer une séance pour que ce jeune qui a appris avec lui, pendant plusieurs années, puisse faire ses preuves. Et devant un grand public, le jeune homme se met à jouer au piano. De très beaux sons. Toute la salle était émerveillée. On sentait vraiment qu'il avait du talent. Ça se voyait qu'il avait du talent. Et il jouait. Les gens étaient émerveillés. C'était un spectacle formidable. Et à la fin, tout le monde a acclamé très fort. Tout le monde s'est levé. Ils ont acclamé. Mais pendant que la foule acclamait, c'était des milliers de personnes. Pendant que la foule acclamait, le jeune homme n'avait pas ses regards fixés sur la foule. Le jeune homme avait ses regards fixés dans un coin de la salle où se trouvait assis un vieil homme aux cheveux blancs. C'était son maître. Et quand la foule a fini d'acclamer, et quand il a regardé le jeune homme, le vieil homme, quand le vieil homme a regardé le jeune homme, jusqu'à ce que le vieil homme ait fait un geste, le jeune homme n'a pas baissé son regard. La foule avait arrêté d'acclamer. Il y avait un silence absolu. Il a regardé. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe. Le jeune homme avait ses regards fixés vers le coin de la salle. Il attendait quelque chose. Il attendait un signe. Il attendait une validation ou une affirmation. Alléluia! Et quand le vieux a bougé la tête, il s'est levé. Il a fait comme ça. Oh, le jeune homme a bondi de sa chaise. Alléluia! Il était content. Alléluia! Voilà ce que Dieu attend de nous. Quand la foule nous acclame, oh bien-aimé, nous devons avoir nos regards fixés sur le coin de la salle où se trouve Dieu. Et attendre qu'il fasse un geste. S'il n'a pas fait un geste, nous ne devons pas considérer les regards et les acclamations de la foule. Alléluia. Nous devons attendre qu'il nous dise quelque chose. Et tant qu'il n'a rien dit, nous ne faisons rien et nous ne considérons rien. Et nous n'agissons pas. Nous devons agir selon ce que lui nous dit. Et quand il va nous faire un signe, bon et fidèle serviteur, rentre maintenant dans la gloire de ton maître. Alors nous pouvons exulter de joie. Un homme qui a de l'assurance n'agit pas en fonction de ce que les gens disent. Voyez-vous, David savait très bien qu'il était loin de Dieu. Samuel l'avait déjà loin roi. Et David, depuis l'âge de 17 ans, était conscient qu'il était roi. Mais le fait qu'il allait garder les moutons de son père n'enlevait en rien son identité. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il a reçu un appel, il est conscient qu'il a l'appel, il est conscient qu'il a l'onction pour aller prier pour les malades, pour aller prêcher. Parce que le pasteur lui demande d'aller nettoyer les toilettes, la personne est frustrée parce que ce n'est pas possible. Le pasteur ne se rend pas compte de qui je suis. Il ne sait pas que quand le prophète Fletcher est venu ici, il a prophétisé publiquement devant plus de 300 personnes que je t'ai appelé au ministère pastoral, apostolique, prophétique, évangélique, et que je ne suis plus au niveau d'aller nettoyer les toilettes. Mais qu'est-ce qu'il a le pasteur? Qu'est-ce qu'il lui prend aujourd'hui? Il ne réalise pas qui je suis. Mais ça n'a pas empêché à David d'aller garder les moutons de son père. Il était conscient qu'il était roi. Et bien mieux, lorsque David va voir comment se portaient ses frères sur le champ de bataille, il trouve le géant Goliath qui était là en train d'insulter l'armée de l'Éternel depuis plus de 40 jours. Il est étonné de voir que ses grands frères, Eliab et autres, même le roi Saül, tout le monde est terrorisé devant le géant Goliath. Mais qu'est-ce que David dit? Vous lirez ça dans 1 Samuel chapitre 17. Il dit, le même Dieu qui m'a donné la force de vaincre l'ours et de tuer le lion, ce même Dieu me donnera la force de vaincre ce géant Goliath, c'est un circoncis qui insulte l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de qui il était. Malgré le fait que son grand frère Eliab le prenait pour un orgueilleux, quelqu'un qui avait de la malice dans son cœur, il n'écoutait pas ce que son aîné disait, parce qu'il savait qu'il n'avait pas l'orgueil, il n'était pas orgueilleux, il savait qu'il n'avait pas la malice dans son cœur, donc il ne laissait pas les gens lui dire ce qu'il n'est pas. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est frustrés parce qu'un frère nous a dit quelque chose, une parole qui nous a blessés. Mais si ce que le frère a dit sur ta vie n'est pas réellement ce que tu es, pourquoi serais-tu blessé? Si on t'a critiqué, on t'a dit des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas en concordance avec ce que tu es, avec ton identité, pourquoi tu vas te laisser blesser? Pourquoi tu vas être frustré? Pourquoi tu vas être triste? Donc si tu es triste, c'est parce que tu considères que ce qui a été dit est vrai. Ou c'est parce que tu ne sais pas réellement qui tu es. Alors tu agis comme quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Moi, je sais qui je suis. Et personne ne me dira qui je suis si ce n'est Dieu. Et personne ne me dira ce que je ne suis pas. Parce que je sais qui je suis. Alléluia! Ça, c'est très important. Et Jésus savait qui il était. Quatrième fondement. L'assurance nous permet de garder le focus. Dites le focus. L'objectif. L'assurance nous permet de garder l'objectif. Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. L'objectif de Jésus était clair, c'était d'aller de l'autre bord. Pourquoi? Parce que l'autre bord, il y avait du travail que Dieu avait réservé pour lui. Il y avait des démoniaques à délivrer. Alléluia. Donc, son travail n'était pas fini sur la terre. Il avait un objectif à faire. Bien-aimés, sur la terre, nous avons du travail. Dieu ne nous a pas appelés sur la terre pour chômer. Alléluia. Nous avons du travail. Ok? Et aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous avons du travail. Et Dieu s'arrangera à nous garder aussi longtemps possible sur la terre parce qu'il a préparé pour nous des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Donc, parce que je suis conscient que Dieu m'a envoyé sur la terre pour une mission et que j'ai des choses à faire sur la terre, non seulement je ne chôme pas, mais je ne crains pas, je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur de mourir, même si une maladie vient m'attaquer, même si les démons m'attaquent, je n'ai pas peur de mourir parce que je sais que j'ai des choses à faire sur la terre, alors je marche avec assurance, je sais que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, et ce n'est pas le diable qui va m'empêcher, il ne me tuera pas parce que Dieu a dit, j'irai de l'autre bord. Vous avez manqué une occasion de donner gloire à Dieu. Vous manquez tellement d'occasions pour donner gloire à Dieu. Dis à ton frère, ne dors pas. Alléluia. Jésus a dit, passons de l'autre bord. L'objectif est clair. Donc, entre le premier bord et l'autre bord, il y avait le fleuve. Il n'y avait pas seulement le fleuve, il y avait aussi la tempête. Il n'y avait pas seulement la tempête, il y avait aussi les paroles d'incrédulité, de peur, d'inquiétude que manifestaient les disciples. Mais la Bible déclare qu'au milieu de tout ce décor, Jésus dormait avec assurance. Pourquoi? Parce que dans son esprit c'était clair, il allait de l'autre bord. Je sais que je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Je sais que j'ai des œuvres que Dieu a préparées pour moi. Et tant que ces œuvres ne sont pas encore accomplies, je ne peux pas accepter l'idée de mourir. Même si la maladie arrive, même si les turbulences arrivent, même si les démons se déchaînent, je sais que j'atteindrai mon but. Je dois garder mon regard fixé sur l'objectif de Dieu pour moi sur la terre, ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Et je sais que je vivrai aussi longtemps que Dieu me donne de vivre sur la terre pour accomplir ma destinée. Donc je garde l'objectif, je garde le focus et je marche avec assurance. Pourquoi? Parce que mon regard est focalisé sur les objectifs de Dieu pour moi sur la terre. Quand je perds l'objectif, je perds la perspective. Alléluia. Quand je perds l'objectif, je perds la perspective. Et quand je perds la perspective, je perds la boussole. Souvenez-vous de Pierre. Son objectif était clair. Si tu es le Fils de Dieu, fais que je vienne aussi à toi, que je marche sur les eaux. Et aussi longtemps que Pierre avait le regard fixé sur Jésus, en fait, pas sur Jésus. Il avait les regards fixés sur l'objectif. Son objectif, c'était de marcher sur l'eau. Et aussi longtemps qu'il avait son regard fixé sur l'objectif de marcher sur l'eau, il a marché sur l'eau. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas si ça a duré quelques secondes, quelques minutes. Mais la Bible nous claque que Pierre a marché sur l'eau. Alléluia! Pierre a marché sur l'eau. Mais lorsque Pierre a détourné son focus, son objectif de ce pourquoi effectivement Jésus-Christ l'appelait à faire, c'est-à-dire marcher sur l'eau, il a commencé à regarder la tempête. À l'instant, ses objectifs ont changé. Et à l'instant, il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a déconnecté. Il s'est déconnecté de l'objectif.
Et c'est vrai que parfois aussi, on a des objectifs qui ne sont pas de Dieu. Donc, si je garde mon focus sur un objectif qui n'est pas de Dieu, je suis en train de courir en vain. D'où il est important de connaître quel est le plan de Dieu pour ma vie et de pouvoir effectivement bâtir mes objectifs sur la vision de Dieu pour ma vie. Ce que Dieu attend de moi. Et c'est là où l'importance pour nous, effectivement, de la dimension prophétique, pour savoir ce que Dieu attend de nous. C'est l'importance pour nous, effectivement, la parole de Dieu, pour connaître les promesses que Dieu a faites sur notre vie, pour connaître ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire avec nous. Et quand on a connu ces choses, on garde l'objectif. Je sais une chose, cette œuvre ira dans la destinée que Dieu a prévue pour elle. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vents et marées, je sais qu'on ira de l'autre bord. L'objectif vient de ta perception. Ce que tu as perçu détermine ton objectif. À partir de ce moment-là, tu gardes ton focus sur ce que tu as perçu. Même si ça prend du temps, tu sais que cela s'accomplira. Jésus a gardé l'objectif, le focus, et il est arrivé de l'autre bord, quelle que soit la tempête. Alléluia. Et c'est important de savoir aussi que la confiance que l'on bâtit, l'objectif qu'on bâtit, elle est puisée sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque on n'est pas rempli de la parole de Dieu, on est rempli d'autre chose. Et quand on est rempli par autre chose, ce autre chose-là va guider ma vie. C'est pourquoi David, pour aller combattre le géant Goliath, la Bible déclare que il est parti au torrent. Il est parti au torrent, mais c'est quoi le torrent? Le torrent, c'est la présence de Dieu. Le torrent, c'est la parole de Dieu. Il est allé au torrent et dans le torrent, il a pris 5 pierres. Voyez-vous, c'est dans la parole de Dieu qu'on va puiser les pierres nécessaires pour bâtir notre vie, pour bâtir effectivement nos objectifs avec le Seigneur. Et quand on a puisé ces choses dans la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que quand on se présente devant le géant Goliath, le Saint-Esprit nous permettra de choisir la pierre nécessaire pour attaquer l'ennemi qui est en face de nous. Dans les circonstances de chaque jour, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Voyez-vous, toutes les pierres que David a prises dans le torrent ne l'ont pas servi pour vaincre le géant Goliath. Alléluia. Il a pris 5 pierres, mais il n'a pas utilisé les 5 pierres pour terrasser le géant Goliath. C'est pourquoi il est important, nous devons lire la parole de Dieu chaque jour, parce qu'à chaque jour, il y a des géants Goliath, à chaque jour, il y a des situations difficiles et différentes. Donc, si tu n'as rien au-dedans de toi, le Saint-Esprit ne va rien prendre. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'utilise rien d'autre que ce que nous avons au-dedans de nous. Si j'ai du vent au-dedans de moi, il utilisera le vent. Si j'ai le vide, eh bien, il va brasser de l'air. Quand il va se mettre en mouvement, le Saint-Esprit, c'est un mouvement. Il agit dans, quand il se met en mouvement, s'il n'y a rien, il brasse de l'air. Mais si la parole de Dieu est en moi, il prendra la parole nécessaire, il sortira de moi la pierre nécessaire pour vaincre la circonstance qui se présente devant moi. C'est pour cela qu'il est important d'aller au torrent de la parole de Dieu. Pour que lorsque viendra le trouble, dans la nuit, qu'un cauchemar va te réveiller, à l'instant, le Saint-Esprit sorte une parole dans toi. Je me coucherai toujours, je m'endormirai toujours en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Pour que lorsque viendra effectivement le moment de doute, dans les moments difficiles, par rapport à ton avenir, le Saint-Esprit aille chercher la pierre nécessaire au-dedans de toi, et que tu puisses dire, ma vie est entre les mains du Seigneur. Mon avenir est dans sa sûre main. Il a formé pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir d'espérance. Pour que quand le Goliath de la culpabilité viendra en face de toi, tu puisses, au-delà de toi, trouver la pierre nécessaire pour le vaincre. Et dire, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, l'amour de Dieu pour moi ne s'éloignera point, quel que soit ce que j'ai fait, même si je suis infidèle, lui demeure fidèle. Il a dit, si je confesse mes péchés, il est capable, il est fidèle juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Alors tu vas sortir la pierre nécessaire pour vaincre la culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a dans ta gibecière aujourd'hui? En fonction de ce qu'il y a dans ta gibecière, alors le Saint-Esprit va s'en servir pour vaincre et terrasser les géants Goliath. Donc notre assurance doit reposer sur ce que nous avons dans notre gibecière. Mais ce que nous avons dans notre gibecière, nous avons puisé où? Dans le torrent de la parole de Dieu. Alléluia! Je semble plus excité que vous ce matin. Pourtant, c'est moi qui travaille. Alléluia. Sur quoi repose ton assurance?
Fondement numéro 5. L'assurance s'acquiert par la prière. L'assurance s'acquiert par la prière. Une personne qui a de l'assurance ne doute pas quand elle prie. Parce qu'elle sait que Dieu l'exauce. La preuve, elle a la paix. Je vous invite à aller dans Jean chapitre 11, verset 42. Jean chapitre 11, verset 42. C'est Jésus qui se trouve en face du tombeau de Lazare. Voyez-vous, Jésus est au courant que son ami qui l'aime tant, Lazare, est mort. Nous, à sa place, quand on apprend que quelqu'un qui nous est cher est décédé, on commence à paniquer. Tout de suite, on commence à chercher les voies et moyens, comment on va faire. Si c'est au pays que la personne est décédée, on va commencer à chercher, est-ce que je peux avoir de l'argent? J'ai pas de moyens. Est-ce que quelqu'un peut me prêter de l'argent? Je vais acheter le billet pour partir. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je fasse quelque chose. On commence à paniquer dans tous les sens, au nord, au sud, à l'ouest. On sait plus, on commence à paniquer. C'est normal, c'est humain. Mais opérer dans la sphère divine, c'est différent. C'est que Jésus, voyez-vous, avant d'aller dans la barque, la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui vient lui dire, mon père est mort, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Mais la Bible déclare que Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Vous comprenez? La dimension divine est différente de la dimension humaine. Dans la dimension humaine, quand quelqu'un est mort, on va commencer à paniquer, on va commencer à crier, on va commencer à pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à chercher les moyens, l'argent, on va commencer à chercher la consolation des hommes. Ça, c'est humain. Mais la différence avec la dimension divine, quand on apprend que quelqu'un est mort, on laisse les morts ensevelir les morts. On reste dans la paix. Et Jésus est resté dans la paix. Et il est resté dans la paix pendant 4 jours. Lazare était mort depuis 4 jours. Lazare sentait déjà, mais Jésus n'a pas paniqué. La Bible dit que c'est quelqu'un que Jésus aimait. C'était son ami. Mais il n'est pas allé du premier coup quand on a annoncé que Lazare est mort. Je ne vais pas vous dire que quand vous appelez quelqu'un mort, il ne faut pas partir. Non. Je suis en train de vous parler de l'attitude que Jésus avait. Lazare, quelqu'un qui l'aime, est mort. Il est resté encore pendant 4 jours à vaquer à ses occupations. À prêcher la parole. À délivrer les captifs. À guérir les malades. 4 jours sont passés. Alors il dit, maintenant je vais aller voir Lazare. Pourquoi? Parce que il avait l'assurance dans son cœur que Lazare devait ressusciter. Il n'avait pas à courir dans tous les sens. Il n'avait pas à combattre comme battant l'air. Il gardait bien sûr le focus. Et il agissait calmement. Et quand il arrive en face du tombeau de Lazare, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais pour eux. Mais pour moi, je sais que tu m'exauces. Il n'a pas dit, je crois que tu vas m'exaucer. Il n'a pas dit, je pense que... Il n'a pas dit, j'imagine qu'en cet instant, tu serais capable de faire quelque chose. Il n'a pas dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui a agi autrefois, je t'invoque en cet instant, je t'en supplie, je... aie pitié, Père de miséricorde, Père de compassion. Non. Il n'a pas fait de supplication. Il n'a pas fait de prière d'invocation. Il a dit, je sais. Il a fait une prière d'assurance. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 24, que celui qui prie et qui a dans son cœur l'assurance et qui ne doute point, Matthieu 11, 24, et qui sait que ce qu'il demande, Dieu le lui accordera, alors ce qu'il demande, il obtiendra. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a point douté dans son cœur. Mais beaucoup aujourd'hui, nous prions, nous venons, nous faisons beaucoup de prières, nous prions, nous levons nos voix, on prie ensemble, on ne croit même pas en ce qu'on dit. Nous ne croyons même pas en ce que nous disons. Combien d'entre vous croyez réellement vos prières?
Très peu ont levé la main.
Non, la vérité, c'est que nous ne sommes même pas conscients de ce que nous disons. Nous récitons des paroles qu'on a apprises. Nous récitons des versets qu'on a appris. Nous brassons de l'air, nous combattons l'air. Nous prions par réflexe. La vérité. Prions. Parce que le conducteur a dit de prier, on prie. On prie parce qu'il faut prier. La preuve, c'est qu'après la prière, nous nous comportons différemment de ce que nous avons demandé dans la prière. Donc, c'est clair que nous ne croyons pas en ce que nous disons dans la prière. Mais Jésus, quand il priait, il croyait en ce qu'il disait. Donc, après la prière, il ne se comportait plus de la même manière. Si avant la prière, tu étais inquiet, tu étais dans le trouble, dans la panique, et que tu disais, je suis malade. Si dans la prière, tu as dit, Seigneur, je sais que par les mains de Christ à la croix, je suis guéri. Normalement, après la prière, tu ne dois plus dire, je suis malade. J'ai mal ici. Oh, j'ai mal dormi vraiment aujourd'hui, hein. Mais pourquoi alors tu as prié? Mais j'ai prié parce que j'ai mal dormi et je ne veux plus bien mal dormir, donc je veux bien dormir. Donc tu as prié pour bien dormir, n'est-ce pas? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a exaucé? Oui. Mais alors pourquoi tu dis encore aujourd'hui j'ai mal dormi, hein? Et tu vas aller dire à ton frère, après la réunion, tu vas dire, oh franchement, je t'assure que ce matin quand je me suis levé, c'était dur, hein? J'ai mal ici. Tu te plains tout le temps. Donc, après ta prière, ton attitude, tes paroles annulent ta prière. Parce que tu n'as pas fait une prière avec assurance. Alors, vous avez quelqu'un qui prend son argent, qui va le déposer en banque, et le banquier est là, donc, a signé tous les papiers, c'est clair et net. On a souscrit aux assurances en cas de vol, en cas de, etc., de perte de carte bancaire, tout est OK. Et la personne qui marche, elle part, elle s'arrête, elle dit, ah, mon argent, mon Dieu, j'ai déposé 10 000 euros. J'espère vraiment que cet argent sera bien gardé. Hein. Il rencontre le frère Ferdinand. Bonjour frère, ça va bien? Oui. Ah, ça va, oui. Comment tu vas? Ah, ça va vraiment, mais là, je suis un peu inquiet. Pourquoi? Parce que je viens de mettre mon argent en banque et je me demande si réellement cet argent-là va être bien gardé. Le frère va dire, mais attends, il a un problème. Il rentre à la maison. Bonjour madame, bonjour les enfants. Ça va papa? Oui, ça va, mais l'argent que j'ai mis en banque, là, je ne sais pas vraiment si je pourrais le retirer un jour. Et il va se coucher encore une fois de plus, il est allongé. Il ne dort pas. Il est 1h02 du matin. La femme se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je pense à mon argent que j'ai déposé en banque. Il y a un problème. Alléluia. Et beaucoup, nous nous comportons comme ça. Nous prions, mais nous allons nous coucher avec des craintes. Nous avons des relations avec les frères dans le doute. Et les frères voient en nous des gens qui sont tristes, qui ont des problèmes. Tous les jours, on présente un visage de quelqu'un qui a des problèmes. Mais pourquoi tu pries alors? Et nous croyons plus en ce qu'un frère va nous dire qu'en notre prière. Quand le frère va dire, frère, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ah oui, comme c'est le frère Ferdinand, c'est quand même le doyen. Il est quand même plus avancé que moi dans la foi. Donc s'il a dit ça, c'est que réellement, au moins Dieu l'a parlé. Mais pas moi, en fait. Ou bien que le pasteur dise, ainsi parle l'Éternel. Ton argent est bien gardé. Alléluia. Le prophète a parlé. Oh Seigneur, merci. Nous croyons plus en quelque chose qui vient de l'extérieur qu'en ce qui peut venir de nous. Du moins, c'est notre relation avec Dieu. Nous ne croyons plus en nos prières. Vous savez, les musulmans croient plus en leurs prières qu'aux chrétiens. Les chrétiens. J'étais au Maroc, on est allé faire les courses avec mon épouse, on arrive au marché, on voulait vraiment acheter des choses parce qu'on était pressé, il y avait des réunions, etc. Mais on arrive, c'est le moment où on sonne à la mosquée. Hein? Donc ils commencent à appeler les gens à la prière. À l'instant, pendant qu'on parlait avec le commerçant, tout le monde a arrêté. Tous les commerçants, ils ont arrêté leurs activités, à l'instant. Et on est resté comme ça, avec l'argent en main. Pas moyen de négocier que tu peux pas d'abord finir avec nous là et puis après, à l'instant, ils ont tout arrêté. ils ont déplié leur natte, ils ont installé et c'est parti. Et on était là, on attendait.
Moi, pasteur, debout, en train d'attendre que le musulman finisse sa prière pour acheter une paire de chaussures dans son magasin.
Est-ce que vous comprenez pas la dimension? Eux, ils croient plus en leur prière que nous. Au point que ils accordent plus de valeur en leur prière qu'en leur commerce. Ils sont prêts à tout laisser tomber pour la prière. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus d'assurance. Voilà pourquoi ils ne sont plus nombreux dans les réunions de prière. Voilà pourquoi ils ne prient plus. Leur relation avec le Seigneur, il y a un manque de prière dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous ne croyez plus à vos prières. Alors vous croyez plus à la prière du frère, à la prière du pasteur, à la prière d'un bishop, à la prière d'un prophète. Mais votre propre prière, vous ne croyez plus. Il y a un problème. Il vous manque d'assurance dans votre foi. Votre foi a des lacunes. Il y a un problème. Il faut réparer ça rapidement. Mais celui qui prie et croit dans son cœur, ne doute point, il sait que Dieu l'a exaucé. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Celui qui prie sait que Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la prière, la Bible déclare qu'après avoir prié avec supplication, avec gémissement, à la fin de la prière, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera son cœur et ses pensées en Jésus. Comment je sais que Dieu m'a exaucé? Quel est le signe qui me prouve que Dieu m'a exaucé après avoir prié? C'est la paix de Dieu. Et quand j'ai la paix de Dieu, je sais alors, j'ai l'assurance que Dieu m'a exaucé et je ne me comporte plus comme avant la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou quelqu'un regarde sa montre? Ou quelqu'un pense à son michou, hein, à son rôti qu'il a laissé à la maison? Oui, c'est normal, quand tu n'as pas d'assurance, tu es là, il finit quand, il arrête quand? Tu n'es pas dans la paix. Moi, quand je viens à l'église, je suis plein d'assurance, je me dispose. Parce que celui qui a l'assurance se dispose. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant-dernier fondement. L'assurance repose sur la confiance en Dieu. Une personne qui a l'assurance sait faire confiance à Dieu pour son avenir. Psaume chapitre 37, verset 5. Hein? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Alléluia. Dernier principe, l'assurance se bâtit dans l'expérience. Dis à ton frère, l'assurance se bâtit dans l'expérience. Plus j'ai de l'expérience avec Dieu, plus j'acquiers de l'assurance. Mais si je ne mets pas en application ce qui est enseigné à l'église, par le Seigneur, ce qui m'est enseigné, si je ne mets pas en application ces choses, je n'aurai aucune expérience dans la foi. Et si je n'ai pas d'expérience, il n'y a rien qui prouve que Dieu est vivant pour moi. Donc, je manque d'assurance. Ce qui a donné à David l'assurance d'aller combattre le géant Goliath, c'est parce que David avait une expérience ou des expériences au préalable. Il avait vaincu l'ours, il avait tué le lion. Il avait des expériences que peut-être la Bible ne nous a pas encore révélées, ou ne nous a pas révélées dans ses récits. Mais c'était un homme de guerre. Il était habitué, il avait des expériences de victoire. Alors, l'expérience lui a conféré l'assurance. Quand tu fais des expériences avec Dieu, tu mets en application la parole de Dieu, tu vois le résultat dans ta vie, tu vois le fruit dans ta vie, il n'y a pas de raison que tu ne te comportes pas avec assurance pour le restant de ta vie. Tu marcheras pour le restant de ta vie avec assurance. Parce que tu sais que le même Dieu qui t'a délivré de telle situation, le même Dieu qui t'a gardé dans telle situation, dans telle circonstance, le même Dieu qui t'a guéri tel jour, ou qui a guéri telle personne au travers de tes mains, ou qui a guéri telle personne dans ta famille, qui a agi de telle manière, ce même Dieu agira encore pour toi aujourd'hui et pour le restant de tes jours. Alléluia. Donc, l'expérience confère l'assurance. Voyez-vous, l'assurance, c'est un petit peu comme un compte bancaire. Il y a un débit et il y a un crédit. Et chaque fois dans la vie, quand je pose des actions négatives, je débite mon compte. Je débite mon compte assurance. Mais quand je pose des actions positives, Quand je pose, je manifeste les actes de la foi, je crédite mon compte. Et au fur et à mesure que je débite mon compte sera débiteur. Donc je vais manquer d'assurance. Et je vivrai une vie incertaine, dans le doute, dans la peur. Parce que chaque jour, je débite mon compte. Chaque jour, je déclare que je suis malade. Chaque jour, je confesse que tout ne va pas bien. Chaque jour, je me dis, en fait, franchement, dans ma famille, vraiment, on est maudit, hein. Chaque jour, je confesse que voilà, je n'aurai pas de travail parce que, de toutes les façons, mon grand frère n'a jamais eu de travail. On a, dans notre famille, tous eu des diplômes, mais on n'a jamais travaillé. Il y a telle situation qui arrive dans ma famille. Les femmes dans notre famille n'ont jamais fait d'enfants. Et donc, moi aussi, je ferai pas d'enfants, par déduction. Dans ma famille, on n'a jamais fait ceci, donc moi aussi. Chaque fois que tu confesses ces paroles, que tu agis en fonction de ces paroles, tu es en train de débiter ton compte. Tu débites ton compte, tu débites ton compte. Et dans ton compte assurance, tu es peut-être même déjà arrivé au rouge. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes débiteurs dans notre assurance. Et beaucoup de comptes aujourd'hui sont à découvert, malheureusement. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens aujourd'hui, leur vie est fade. Quand tu vois un chrétien, tu peux savoir si son compte est à découvert ou pas. Son compte assurance, confiance. Mais quand je pose des actions positives, je crédite mon compte. Je crédite mon compte assurance. Et on voit par le reflet de ma vie que je suis créditeur. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'assurance. Je suis créditeur. Et je suis, en fait, je suis créditeur d'une richesse, d'un trésor qui n'est pas le trésor matériel ou financier, mais un trésor d'une valeur spirituelle, d'une grande portée spirituelle. Et ce trésor-là qui ensuite va me conférer les richesses matérielles et financières. Alléluia! Donc si mon compte assurance et confiance est créditeur, je suis sûr que mon compte bancaire sera créditeur. Tu as manqué l'occasion de donner gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un travail à faire. Nous devons travailler à l'assurance de notre foi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui même ne croient même pas que Jésus-Christ, quand il reviendra, ils seront sauvés. Ils ne croient même pas qu'un jour, ils iront au ciel. La plupart du temps, quand je parle avec certaines personnes dites chrétiennes, je dis, est-ce que tu es sûr que si Jésus vient aujourd'hui, tu seras sauvé? Elle dit, je ne sais pas. Mais pourquoi alors tu pries? Pourquoi tu vas à l'église? Si tu ne sais pas que tu es sauvé, il te manque l'assurance de ton salut même. Tu ne sais même pas que tu iras au ciel. Pourquoi? Parce que tous les jours tu viens dans le péché, c'est normal. Mais si hier tu étais en boîte de nuit, on te pose la question aujourd'hui, est-ce que si Jésus arrive, tu seras sauvé? C'est normal que tu ne saches pas. Parce que tous les jours tu poses des actions négatives. Donc il te manque l'assurance. Ta vie n'est pas claire, tu le sais au fond de toi. Tu sais que ton compte est débiteur, donc tu n'es pas sûr si, ah, par grâce peut-être, s'il fait grâce. Hein. Mais en dehors de la grâce, c'est-à-dire que par la justification, par la foi, c'est-à-dire que, est-ce que réellement tu sais? Ah, je ne sais pas. Parce que ta vie n'est pas positive. Donc tu as une foi négative.
Alléluia.
C'est la quatrième dimension de la foi, l'assurance. Celui qui a l'assurance agit avec paix, avec sérénité, avec repos, avec assurance. Quand je dis sérénité, c'est pas zénitude. Non. La zénitude, ça, c'est le monde. Mais nous, c'est la sérénité, la tranquillité que procure le fruit de l'esprit, le résultat de notre foi, l'application des principes de Dieu dans notre vie. Je sais que quand je prie, Dieu m'exauce. Pourquoi? Parce que je sais qu'en fait, le prince de ce monde vient à moi, il n'a rien à moi. Je sais que quand je suis là, je marche, le jour comme la nuit, les démons viendront, ils ne pourront pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils n'ont rien à moi. Alléluia! La Bible dit que quiconque naît de Dieu ne pêche point, et le malin ne le touche pas. Donc si je ne pêche pas, pourquoi je vais craindre que le malin me touche? J'ai donc l'assurance que le malin ne me touchera pas, parce que je ne pêche pas. Mais si je pêche, j'ai des raisons de m'inquiéter. Parce que certainement le malin peut me toucher, à moins que la grâce de Dieu agisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Si je suis correctement positionné, j'ai de l'assurance. Voyez-vous, il y a des gens qui rentrent chez eux, ils n'ont pas la paix. Ils redoutent toutes les questions que la femme peut poser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils savent que ils n'agissent pas correctement, ils sont pas correctement positionnés. Ils savent ce qu'ils ont fait avant de rentrer chez eux. Et ils pensent que madame est au courant. Ils se demandent si la voisine ne les a pas vus. Et donc, comment ça se fait tout un film à la tête? Il se dit, mais si la voisine m'a vu, certainement ma femme est au courant. Si ma femme est au courant, c'est fini. Donc, il rentre, il commence à foncer. Souci. Bonjour, chérie. Bonjour. Il commence à vouloir influencer tout le monde. Mais parce qu'il se reproche de beaucoup de choses. En fait, il a posé des actions négatives, donc il n'a pas d'assurance. Et la moindre petite question, innocente, mais vraiment innocente. Chérie, où est-ce que tu étais? Et puis quoi encore? C'est quoi? Maintenant, on me surveille dans cette maison, c'est quoi ça? Hein? Et depuis quand maintenant, on me pose des questions comme ça ici?
Son compte est à découvert. Acclamons le Seigneur, alléluia.
Son compte est à découvert. Mais quand tu es pur, tout est pur pour ceux qui sont purs. Quand on te pose la question, tu réponds. Tu peux t'en répondre avec assurance à quiconque te demande raison de l'espérance qui est en toi. Alléluia. Et des chrétiens comme ça, quand ils voient le pasteur arriver, quand tu lui poses la question, ils commencent à... mon frère, je vais te voir là dans mon bureau. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, le pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur Nina m'a appelé là, elle veut me voir. Ah là, je sais pas. Mais si tu te reproches de rien, pourquoi tu as peur? Le prophète m'a appelé, qu'est-ce qu'il a encore vu sur ma vie? Mais est-ce que le prophète est obligé de tout voir? Et parfois, c'est même toi qui me fais voir les choses. Parfois, je ne vois rien. Mais par ton attitude, je commence à voir. Mais c'est la vérité. Comme il te manque d'assurance, je commence à voir. Je dis,
Acclamons le Seigneur, alléluia.
Alléluia. Parce que ton compte est tout le temps à découvert. On voit dans tes actions, tu n'as pas d'assurance. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Et j'aime bien mon épouse parce qu'elle a l'air de poser des questions qui secouent un peu les fondements là. Des fois, tu es sûr de faire quelque chose de bon, mais elle te pose une question. Et quand elle t'a posé la question, du coup, tu ne sais plus si ce que tu fais, c'est ça ou c'est pas ça. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr. Mais si tu es sûr, tu réponds. Et j'aime bien son assurance. Ma femme, quand elle est convaincue de quelque chose, bien-aimé, même si ce n'est pas vrai, tu sortiras de là avec la conviction que c'est vrai. Parce qu'elle a l'assurance. Alléluia.
Bon, heureusement que tout ce qu'elle dit, quand même, à 99%, c'est vrai. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève-nous, allons rendre grâce à Dieu. Alléluia.
L'assurance de la foi. Quatrième niveau de la foi. Nous devons travailler à cela, bien-aimés, et nos vies seront dans la tranquillité. Nous agirons tous les jours avec sérénité, avec paix, avec tranquillité, avec vraiment repos. Hein? Et même dans le trouble, nous pourrons dormir dans la paix. Nous pourrons dormir dans la paix. Alléluia, Jésus. Seigneur, donne-nous de l'assurance. Est-ce que tu peux le dire à Dieu, Seigneur, augmente mon assurance ce matin. Il te manque d'assurance dans ton travail, dans ce que tu fais. Acquiert plus d'expérience, peut-être. Mais sache aussi que l'assurance repose sur la foi en Dieu. Tu es peut-être stressé le matin quand tu vas au travail parce que tu n'es pas sûr encore. Tu ne maîtrises pas encore ton domaine. Mais acquiert de l'assurance auprès de Dieu. Parce que l'assurance de Dieu te confère l'habileté. Te confère l'habileté. Te confère la maîtrise. Te confère l'expertise. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il te manque l'assurance quand tu vas à l'examen. Parce que tu as étudié certaines leçons et certaines matières, tu ne les maîtrises pas encore. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Parce que si ta confiance et ton assurance reposent sur Dieu, tu sais alors que même les domaines que tu ne maîtrises pas, Dieu sera ton aide, il sera ton soutien. Et là où tu as des manquements, il saura les compenser par sa grâce. Alors tu peux aller composer, tu peux aller affronter l'examen, l'épreuve avec assurance. Tu as peut-être un entretien d'emploi, d'embauche à passer. Tu peux aller avec avec assurance, même quand tu ne sais pas l'issue de l'entretien, les questions qui te seront posées, qu'est-ce qui t'est réservé, tu peux aller avec confiance et assurance, parce que tu sais que, oh, il a dit dans sa parole, que tu n'auras même pas à t'inquiéter au sujet de quoi tu auras à dire, mais ce que tu auras à dire te sera donné à l'instant même. Alors tu pourras ouvrir ta bouche et laisser couler le flot de l'esprit. Quand tu marcheras dans l'assurance, tu n'auras pas de stress. Tu seras dans la confiance. Élevons tous nos voix et demandons à Dieu d'augmenter notre assurance. Prions tous ensemble. Seigneur, je vais marcher avec assurance. Je ne craindrai ni la terreur qui frappe en plein jour, ni la peste qui frappe en plein jour, ni la terreur qui frappe en pleine nuit. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Dieu, je regarderai la rétribution des méchants. Je verrai leur récompense, comment tu les livres en spectacle devant mes yeux. S'ils sont rentrés par un seul chemin, ils sortiront par 7. J'ai l'assurance que je peux me coucher et m'endormir en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai l'assurance que par les maîtres cieux de Christ à la croix, je suis guéri. J'ai l'assurance que j'aurai du travail parce que tu as fait la promesse que tu pourvoiras, tu es le grand pourvoyeur. J'ai l'assurance que je suis délivré de tous mes ennemis parce que tu me l'as dit dans ta parole. J'ai l'assurance que les sorciers ne pourront pas m'atteindre parce que le monde et le prince de ce monde sont soumis à ta puissance et le prince de ce monde ont été vaincus et les démons ont été vaincus et ils viendront à moi et ne pourront pas m'atteindre parce que je sais, j'ai l'assurance qu'ils n'ont rien à moi qui les appartienne. J'ai l'assurance. Et je repose en paix en toi. J'ai l'assurance que mon entreprise ne fera pas faillite. Parce que mon expérience me donne aujourd'hui de voir comment Dieu a agi, comment Dieu a bâti cette entreprise par sa main miraculeuse et comment il m'a délivré des épreuves difficiles. Alors j'ai l'assurance pour mon avenir et pour l'avenir de mon entreprise que mon entreprise subsistera et non seulement subsistera, mais elle croîtra, elle prospérera, elle aura du succès et je réussirai dans mes entreprises. J'ai l'assurance que même si dans ma famille, les femmes n'ont jamais fait d'enfants, moi je ne suis plus de la lignée, alléluia, familiale, je suis déconnecté, détaché de mon arbre généalogique humain. Maintenant je suis attaché à l'arbre généalogique de Christ et que maintenant la malédiction est brisée sur ma vie. Alors à partir de moi, la malédiction, la stérilité s'arrête et de moi maintenant naît une nouvelle postérité, une nouvelle génération qui va enfanter. J'ai l'assurance que même si dans ma famille, les gens n'ont pas réussi dans leurs études, moi je réussirai parce que je ne suis pas n'importe qui. Oh, alléluia, je suis un fils du roi des rois. Alléluia, l'héritage de Dieu est mon partage. Le succès et la réussite sont mon partage. Alléluia, il m'a dit que je serai toujours la tête et non la queue. Alors mon assurance repose sur sa promesse et je sais alors que je réussirai dans mes études. J'ai l'assurance que là où les médecins ont déclaré que je ne pourrais plus être guéri, je serai guéri parce que je sais que les médecins ne guérissent pas, les médecins soignent, mais c'est Jésus qui guérit et Jésus m'a déjà guéri par les mettre sur le Christ à la croix, je suis déjà guéri. J'ai l'assurance que j'obtiendrai un emploi. Parce qu'il m'a fait la promesse, quand je priais, il me l'a dit, il l'a confirmé par prophétie, par la bouche de son serviteur, que j'aurai du travail. Alors si la promesse tarde, je l'attendrai avec assurance, parce que je sais qu'elle s'accomplira certainement. Je ne crois plus, mais je sais, Et je sais que 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 je sais ce que je sais. Alléluia. De mon salut. On va terminer avec ce chant. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Son saint. Allez-y, les chantres. Et pendant que les chantres chantent ce cantique avec ceux qui connaissent, les autres, vous confessez votre assurance. Vous confessez votre quatrième dimension de la foi.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.